Brisons les castes.
Eh bien, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Brisons la glace, le podcast francophone de Norvège. Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Bonne fête, Valentin.
Merci.
Est-ce qu'il y a des collègues au bureau qui t'ont chambré déjà?
Non, parce que ici c'est plutôt Valentine.
Et ils n'ont pas fait le lien.
Donc non. Apparemment, ça sonne plus féminin que masculin ici. Donc non, très peu de gens y ont pensé finalement.
Bien, et bien pour ta fête, c'est baptême du feu à la technique.
Effectivement, bon repos pour Emma, bon rétablissement, on pense à toi.
Et oui, c'est vrai que là c'est en plein, ça reneigeait, c'est encore le bazar dans les transports, à Oslo du moins.
Et les virus circulent.
Autour de la table, on a aussi Stan en plein dans ses notes. Bonsoir Stan.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Moi, je vais vous parler du tournoi de tennis qui a eu lieu à Oslo le week-end dernier.
On a aussi autour de la table Anaïs pour ta première. Bonsoir.
Hello, merci de m'accueillir.
On a très hâte de t'écouter. Tu as préparé une petite chronique sympa.
Absolument.
On n'en dit pas plus.
On n'en dit pas plus pour l'instant.
Ce soir, nous avons un invité de marque. En l'occurrence, Thomas Bassietto, bonsoir.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir. Avec toi, on va parler un peu de la communauté francophone de Norvège et puis plein d'autres sujets.
Oui. Ça marche, avec plaisir.
Voilà, on est un podcast plutôt sympa. On a des questions.
En toute objectivité.
En toute objectivité, on est super cool. Avant de démarrer dans le vif du sujet, on avait quelques petites news. Tu as suivi un peu le ski
Alors, si on parle des informations en général, effectivement, je crois qu'il y a eu une compétition qui s'est jouée au niveau international, avec la France qui s'est bien placée en tête en biathlon.
Bah oui, ils ont fait carton plein, le carré d'or.
Suivi de la Norvège en deuxième. Et en troisième, on a la Suède, je crois. Donc, au niveau international, oui, ça se passe bien. Je pensais qu'on parlait de ma situation.
On était pressentis pour gagner ou c'est...
Y a toujours des grosses rivalités entre la Norvège et la France au niveau du biathlon. Après, au niveau du ski de fond, j'ai l'impression que la Norvège passe... Enfin, du pur ski de fond, du coup, la Norvège, en général, prend facilement la tête. Il me semble qu'ils ont fait un top 5 sur une des manches.
Moi, j'ai vu un résultat où il y avait des 4 Françaises qui ont fini dans les 4 premières places. Donc, c'était plutôt pas mal. Et donc, ton niveau... J'ai vu des vidéos de toi en train de...
Oui, du coup, après, s'agissant de moi, du coup, oui, effectivement, je au ski de fond classique.
Est-ce que c'est bientôt le niveau international ou,
Absolument pas. Je me fais doubler par plein de monde. Et je prends du plaisir à faire du ski de fond. Je viens tout juste de commencer. J'ai commencé en janvier. Donc, j'expérimente le ski de fond à la frontale. Ou parfois, la frontale n'est pas requise aussi. C'est possible de skier un peu dans le noir relatif.
C'est aventurier à Brisons la glace.
Non, il y a des beaux. Je découvre des beaux coins à visiter, enfin, à parcourir en ski de fond. J'imagine pour des personnes qui sont à Oslo, j'apprends rien. Mais j'ai découvert là, du coup, la piste de ski de fond entre Fagnerveien et Sognsvann. Donc, beaucoup de descentes. Et quand il y a de la neige de bonne qualité, ça se fait agréablement. Et après, dans le Smarka, des particules rudes, on a aussi des belles pistes autour des lacs qui se font, avec bien sûr un petit arrêt en Sport Stua et des petits bars café sur la route. Et on profite de la part de gâteau et du chocolat chaud. Toujours agréable.
Anaïs, c'est ton dada un peu le ski?
Pas du tout. Je détestais ça, je comprends pas. Après, pour la petite histoire, j'avais acheté mes skis de fond donc il y a à peu près 10 ans quand je suis arrivée en Norvège et je les avais négociés pour les chaussures, les skis et même les patins à glace pour 100 kroner. Donc je vous laisse imaginer l'idée des skis de façon. Je crois qu'ils sont brandés Lee Hammer 1984. Et non, en fait, bon, on dit oh, c'est pas une question d'équipement. Bon, un petit peu quand même. Et non, c'est pas du tout mon truc. Je comprends pas trop le délire. Par contre, le ski alpin, il n'y a pas de souci. Mais alors, le ski de fond, j'ai jamais pigé.
Ouais,
et toi, Thomas, t'es un professionnel?
Pas vraiment, je ne saurais jamais par rapport au Norvégien, mais par contre, j'adore ça et j'y vais assez souvent. Ouais.
Donc, toutes les semaines à peu près, quand c'est possible, en hiver?
Ah oui, facilement. Et même en semaine et le week-end. Et...
T'as plein de conseils finalement, ouais, ceux qui veulent débuter.
J'ai pas mal de coins à recommander potentiellement, mais c'est exactement ce que disait Valentin, le grand classique, hein, Frogner Sutteran et le Volsetter Soxvan, c'est... C'est, en plus, c'est de la descente, donc bon, on peut se faire dans l'autre sens.
Ça dépend en quel sens.
Ouais, voilà, exactement. Je connais moins Smarka, mais Skullerud, effectivement, est vachement connu. Après, à l'ouest, il y a Skansbacken, qui est vachement réputé.
Et toi, Stan? Tu t'es lancé dans le ski de ski de fond?
Là, j'en ai pas fait cette année, mais je pars vendredi là, à Lillehammer. Et donc, je vais faire du ski de fond et du ski alpin, ouais.
Ah, mais on va se croiser, alors. Parce que moi aussi, j'y vais le week-end prochain.
Tu vas aller à Shushan?
Non, moi je vais aller à Fjäll. Plus pour le snowboard plutôt que le ski de fond.
Parce que j'y serai aussi du coup.
Eh ben, écoute, on va faire une émission en direct de Lillehammer, pas de soucis. Hein.
Sans déconner, la semaine prochaine, j'y
vais. Moi aussi.
J'y vais avec ma famille. Donc.
Et ben, c'est génial. Comme quand on s'était pas concerté, mais voilà, on est tous connectés.
On termine tous là-bas.
En parlant de sport, Stan, tu t'es confronté. Aux stars du tennis qui sont passés à Oslo.
Vrai. Il y avait un tournoi de tennis à Oslo donc, qui a commencé vendredi. Et il faut savoir que c'est un tournoi qui s'appelle l'UTS Tennis Sports. Et en fait, c'est pas un tournoi officiel organisé par l'ATP. Donc, c'est un tournoi plutôt organisé pour un peu une sorte de jeu. Ils essayent de changer le format. Donc, c'est plus un show à l'américaine. Et en fait, c'est un Français qui a créé ces tournois il y a quelques années, qui s'appelle Patrice Mouratoglou. C'est un prof de tennis à la base. Et maintenant, il a une académie dans le sud de la France, vers Nice. Donc, avec un complexe, hôtelier, etc., etc. Et il est devenu maintenant internationalement connu. Et il était là le week-end dernier. Je l'ai vu. Je l'ai aperçu dans les gradins. Et donc, grâce à sa notoriété, il a permis d'inviter les plus grands joueurs de tennis. Donc, il y avait Gaël Monfils, Benoît Paire, Bublik du Kazakhstan, Rublev de la Russie. T'avais Dominic Thiem, t'avais Ruud, donc c'est le champion norvégien, Casper Ruud. T'avais Rune, qui est le champion danois. Donc il y avait vraiment les stars des stars. Donc j'étais assez étonné et franchement, c'est bien qu'ils organisent quelque chose comme ça à Oslo. On n'a pas l'habitude, surtout les tournois de tennis. Ça fait quelques années qu'il n'y a plus de tournois officiels, même si celui-là n'en est pas un. Il faut savoir que du coup, les joueurs ne gagnent aucun point ATP là-dessus. C'est, à mon avis, ils sont payés pour venir, mais c'est tout. Et c'était, ça se déroulait à Telenor Arena. C'était rempli, quoi, même s'ils avaient coupé la salle en deux. Et donc, en fait, ce genre de format, ce qu'ils essayent de faire, c'est pas mal de lumière, beaucoup de son. Ce qui change d'habitude des vrais matchs de tennis, c'est que les gens ont le droit de parler pendant les points. Donc, ont le droit d'encourager les joueurs et tout. Donc, ça déstabilise aussi les joueurs. Mais c'est très spécial. Surtout que le filet de tennis, en fait, est réduit en distance pour avoir des points plus spectaculaires, pour permettre aux joueurs de tirer la balle.
Tu veux dire en largeur le...
Exactement. Ouais. Donc, en fait, ils diminuent la largeur
du filet
ouais. En fait, pour que les joueurs puissent mettre une sorte d'effet. Et il y a eu des points comme ça extraordinaires.
Tu veux dire qu'ils passent à côté du filet?
En fait, ils arrivent à enrouler la balle comme au foot et donc toucher la ligne alors que c'est une ligne droite. Quoi. Ils arrivent, tu vois, à en faire un enroulé. Et en fait, ça rajoute du spectacle. Et c'est un peu le but de ce que j'ai compris sur leur site internet, ce que Patrice expliquait, que c'est un peu le but recherché, c'est le spectacle. Un peu le show à l'américaine. Donc en fait, il y a beaucoup de pauses, mais pas très longues. Donc pas mal de... Par exemple, il y a un drone qui filme avec une caméra. Donc ils essayent de faire des kiss cam, ce qui est très...
oui, en NBA, ça se fait beaucoup, en football américain, etc.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est un show très américain. Et donc, non, écoute, c'était super. On a encouragé Benoît Paire. On est passé à la télé vu qu'on avait ramené notre drapeau français. Donc, il y avait le caméraman qui nous a filmé tout le match à 1 mètre de nous, ce qui était assez spécial. Mais non, c'était très sympa.
Mais du coup, tu as nommé plusieurs joueurs. Ouais. Comment c'était quoi le format? C'est-à-dire qu'ils étaient en paire, ils étaient solo, normaux?
Oui, donc en fait, de base, c'est un tirage au sort. C'était comme un tournoi normal, en fait. Mmh. Le gagnant était qualifié. La différence, c'est que donc, c'était en carton de 18 points. Et ils avaient enlevé les doubles fautes. Donc, fallait pas se louper sur le service. Benoît Paire a perdu la balle de match en envoyant une balle à 180 dans le filet, alors qu'il n'y a pas de double faute, donc il faut que ça soit tellement précis. Et en plus, les terrains de tennis sont réduits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les couloirs. Donc le terrain, il paraît plus petit. Mais c'est comme... c'est un terrain normal.
C'est comme un tie-break constant, quoi.
C'est une sorte de tie-break constant. Et en fait, la particularité aussi, c'est qu'à la fin de chaque carton, les joueurs, en fait, s'assoient avec leur entraîneur sur une sorte de canapé sur le côté. Il y a une lumière braquée sur eux, la salle est en noir, et on les voit sur le grand écran. Et en fait, ils ont un casque et ils parlent au public. Et donc, souvent, il y a des présentateurs qui posent des questions assez rigolotes en montrant des photos d'eux en vacances, en leur disant ah, t'as un bon style vestimentaire, ou ça, c'est la photo de ta voiture.
Super perso.
Ou t'as fait quoi,
quoi
hier soir. Et donc, hier soir, Benoît Paire, il disait je me suis mis une race, quoi. Le samedi soir, alors qu'il jouait le dimanche.
La classe de Benoît Paire.
Voilà.
En même temps, quand on est à Oslo, comment ne pas résister à cette vie active.
Et en fait, je pense que les joueurs, ce qu'ils disaient, c'est que la plupart des joueurs, ils adorent ce genre de format parce que c'est un peu des jeux. Ça s'amuse vraiment dans l'échange, c'est moins sérieux, même s'il y a des beaux points. Mais je pense qu'ils prennent beaucoup plus de plaisir et puis ça leur permet de visiter d'autres villes, etc. Donc moins de pression. Je pense que ouais, c'est un bon format et ils essayent de faire ça afin de rajeunir un peu le public du tennis qui est souvent assez âgé, quoi.
Ouais, ça change de Roland-Garros. Hein.
Exactement. Mais
plus de Interville.
Ouais, c'est ça.
Oh, Interville.
Ça date. Ça.
T'as pas connu, toi,
mais si,
ça.
J'ai connu.
T'as connu Interville,
j'ai
toi
connu Interville,
j'ai connu Interville aussi.
Mais non mais d'accord, mais lui, il a 15 ans. Ouais.
C'est peut-être pas le même Interville, je crois qu'ils en ont refait.
On est d'accord, parce que
bah,
il y a eu quand même
70,
une interruption.
Ouais, 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 c'est pas le même.
Parce que moi, c'était ma jeunesse enfant.
Je regardais, mais c'était peut-être pas la même version, quoi.
Ouais, bah merci. Est-ce que Patrice a fait d'autres
Oui, en fait.
Il fait un réseau de tournois comme ça,
oui,
parce que
justement.
J'imagine qu'Oslo, c'est pas forcément la destination
privilégiée. Il y a eu en janvier, ils étaient à Londres, 4 jours. Donc il y a Oslo, et après, j'ai plus les autres villes en tête, mais à mon avis, il doit faire un peu le tour de l'Europe comme ça. Donc, ouais, c'est. Non, mais c'est très bien. Surtout pour Oslo, qui n'est pas une capitale mondialement reconnue pour le tennis et pour ses tournois, contrairement à d'autres capitales européennes, même Stockholm qui a des tournois ATP, Oslo n'a plus de tournois ATP, avait un tournoi ITF.
Ils avaient
un tournoi ITF féminin il y a des années, mais il n'y a plus de tournois ATP pour une capitale comme ça, c'est quand même assez choquant personnellement.
J'ai quelque chose à dire sur Interville.
Oh, bien sûr.
Ah oui, bah oui, parce que bon, non, mais nous, on discute, mais...
On n'a sûrement pas regardé la même génération.
Ouais.
Mais en fait, la première, personne ici n'a sûrement vu, parce que ça a commencé en 62 quand même.
Oui, bon, non.
Voilà. Ouais. Il est 62 son droit, mais je pense que nous, on parle de la version 86-99.
Ouais. Ouais, tout à fait.
Voilà. Et ensuite, ils ont repris 2006-2009.
Ça, c'est la mienne.
Voilà. Bah, moi aussi, c'est la mienne. Ouais.
On n'a pas les mêmes références.
On n'est pas dans la même catégorie d'âge.
Ok, on va faire une petite pause musicale. J'ai choisi un morceau de Jacques, La vie de tous les jours.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien. Il se passe rien de mal, c'est pas ce qu'on voit aux infos. C'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours.
Brisons les casques.
Bien de retour dans notre podcast Brisons la glace. On a parlé de ski, on a parlé de tennis et là on va faire un virage à 180 degrés. On va parler de notre invité qui est avec nous ce soir, Thomas Bassetto. Bonsoir, rebonsoir.
Salut.
pour les personnes qui arrivent en Norvège, en général, elles ont le réflexe d'aller sur, comme moi, sur la norvège.no, c'est hébergé en Norvège, le site. Et donc, on connaît d'abord le site avant de te connaître, Thomas. Mais il se trouve que c'est toi qui as créé ce site, c'est bien ça, en tout cas qui l'administre.
Je l'ai créé avec une amie, Laure Lou Desjardins, et en 2019.
Et tu es du coup également représentant des Français de l'étranger en Norvège.
Depuis mai 2021, je fais partie des... Alors, le titre exact, qui est 10 fois trop long, c'est conseiller des Français de l'étranger pour la circonscription Norvège-Islande. Mmh. Donc déjà, ils ont mis les deux pays ensemble et nous sommes 3 élus pour cette circonscription.
D'accord. Et alors, c'est vrai que moi, en tant que nouvel arrivant, le système démocratique, l'orientation en tout cas des Français à l'étranger, je n'y connais absolument rien. J'ai appris juste entre ce vent que du coup, il y avait ce système de représentation. Est-ce que tu serais capable de nous expliquer un peu comment ça fonctionne succinctement ?
Je peux l'expliquer succinctement, on va voir. Donc en gros, il faut bien... beaucoup de gens ne savent pas du tout comment marche le système, et ça c'est normal. Mais en gros, en tant que Français de l'étranger, on a plusieurs représentants. On a, pour nous, dans notre cas, un député d'Europe du Nord, qui s'occupe donc de toute l'Europe du Nord, Scandinavie, Royaume-Uni, etc. Il y a des sénateurs et sénatrices des Français de l'étranger aussi. Donc eux, ils s'occupent de tous les Français de l'étranger, donc tout ce qui n'est pas la France. Ils n'ont pas une région en particulier. Ça, c'est des métiers à temps complet. Et ensuite, il y a les conseillers des Français de l'étranger, comme je suis. Ce n'est pas un métier. C'est, on va dire, un temps partiel. C'est du bénévolat. Et élu pour 6 ans. Le but, donc, c'est de représenter la communauté française auprès des instances gouvernementales, surtout. Il y a aussi beaucoup de réunions à laquelle je suis, où on participe, par exemple, l'attribution des bourses scolaires du lycée français, la commission de contrôle de la liste électorale, les attributions staff, c'est-à-dire soutien du tissu français, des Français étrangers. Donc c'est pour des aides pour les associations. En fait, la France, mine de rien, aide beaucoup si on se renseigne. Il y a aussi les aides sociales, c'est un autre chapitre. Et invité aussi au conseil d'établissement du lycée français. Donc ça, c'est le minimum. Il y a aussi le fait que les conseillers sont des grands électeurs. Les sénateurs et sénatrices sont élus en France par les maires, par les préfets, je crois. Je ne vais pas trop m'engager parce que je ne suis pas trop sûr.
C'est conseiller départemental et régionaux.
Voilà, par exemple. Les sénateurs et sénatrices des Français de l'étranger sont élus par les conseillers des Français de l'étranger. Donc ça, c'est aussi un autre rôle. Et d'ailleurs, c'est une des seules élections obligatoires. C'est-à-dire qu'on a une amende en gros si on ne vote pas. Et ensuite, c'est tout le travail de représentation. J'essaie de me déplacer dans la majorité des grandes villes norvégiennes une fois par an pour aller à la rencontre des Français, par exemple. Ensuite, on en fait ce qu'on veut. Donc, d'être sur les 3 élus, moi je suis à Oslo, Natasha Stamager et Marion à Reykjavik, en Islande. Et avec Natasha, par exemple, pour la Norvège, on a lancé une cagnotte pour le soutien psychologique des Français à l'étranger. Donc en fait, via notre site qui est conseiller-no-is.fr, on peut retrouver les gens qui ont besoin d'aide psychologique. On a une cagnotte que les gens peuvent utiliser. La page sert à trouver des psys français qui connaissent la Norvège et ensuite avoir des réductions grâce à cette cagnotte.
D'accord, ok.
Ah ouais.
Ça fait partie de nos initiatives. Ouais.
C'est les thérapeutes qui sont en Norvège ou pas forcément ?
Oui. Non, oui. C'était. Je trouve que c'est plus simple. Enfin,
Mais effectivement, voilà. Okay.
C'est des gens qui connaissent les problématiques des Français en Norvège et qui sont français ou francophones.
Moi, ce qui m'intrigue, c'est quel est le parcours, quel est ton parcours entre ton arrivée en Norvège et aujourd'hui avec ton rôle d'élu. Tu peux nous faire un...
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est... Bon, en fait, je travaillais à Paris, je suis pas originaire de Paris, j'imagine que ça s'entend avec mon accent. Et,
Non, ouais, non, je plaisante.
Du coup, j'ai été... Enfin, ma femme et moi avons été débauchés par des entreprises norvégiennes. On est arrivés ici par hasard, juste parce que l'opportunité s'était présentée. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'essaie de faire comme beaucoup de Français... C'est-à-dire de ne pas me mêler des Français et d'essayer de m'intégrer dans la communauté norvégienne au début. Au bout d'un moment, j'ai quand même rejoint le groupe Facebook pour les Français à Oslo, qui à l'époque s'appelait French Events à Oslo. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de spam dans ce groupe. Je me suis plaint aux administrateurs en disant « Mais attendez, c'est le bordel ». Du coup, ils m'ont dit « On t'a mis administrateur, démerde-toi. » je vais être clair que ce groupe...
Eh bien, bon courage.
J'en suis l'administrateur, mais je ne suis pas du tout le créateur. Hein. J'ai un peu hérité de ça sur malentendu, on va dire.
OK.
Donc, ça, c'était 2015. Ensuite, j'ai essayé de faire mon boulot sérieusement, bien sûr, d'administrateur, les spams, répondre aux questions. Quand j'en ai eu marre de répondre aux questions, aux mêmes questions tout le temps, j'ai commencé le site, lanorvège.no. Avec Lorlou qui comme ça j'ai plus qu'à mettre le lien vers les réponses au lieu de toujours copier-coller la même chose, et avec un peu de chance les gens vont trouver en faisant une recherche. Ça c'est pas gagné.
Il est bien référencé, le site, quand même, hein.
Oui, en fait, ça marche pas trop mal, mais après il y a des gens qui voudront jamais chercher. Donc de fil en aiguille, j'ai connu de plus en plus de gens de français en Norvège. J'ai fait aussi toutes les soirées de français, les afterwork, des trucs comme ça.
Donc, c'est quand même un grand virage entre non, non, mais je veux rien avoir avec les français de allez, on y va, on fait les soirées.
C'est un peu ça. Après, j'ai toujours quand même mes amis norvégiens, on parle norvégien, mais je sais pas, c'était cool. Quand même, parfois, de temps en temps, quand ça fait des années qu'on est là, ça fait plaisir de trouver, de discuter avec des gens avec on partage beaucoup, on a la même culture. Bon, mais effectivement, je suis dit comme ça, t'as raison, c'est un grand virage. De fil en aiguille, j'ai vu cette élection que je connaissais pas vraiment non plus, hein, comme la majorité des Français. Ah bon, il y a des conseillers, ah bon. Du coup, je me suis lancé. Okay. Et ça a marché.
Est-ce que ce système de représentation est commun à d'autres pays, tu sais, ou pas? Genre, je sais pas, l'Espagne, l'Allemagne,
non.
Ils ont...
Non, 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 c'est vraiment... En fait, il faut bien voir que la France, le réseau diplomatique... Alors, je suis pas diplomate, mais le réseau, on va dire, diplomatique est énorme. Je crois que c'est le troisième pays avec le plus d'ambassades et de consulats, après la Chine et les États-Unis, alors qu'on n'est pas du tout la même population. La France, c'est vraiment, en fait... malgré les gens qui voient le verre à moitié vide tout le temps et qui se plaignent, en tant que Français, on est quand même très bien représentés à l'étranger. Genre, entre les élus, entre les consulats, les ambassades, en fait, par rapport à notre population, c'est du luxe.
D'accord.
La population française, entre la Norvège et l'Islande, ça représente combien de personnes,
tu sais? Alors, il y a plusieurs chiffres. Il y a les chiffres officiels entre les gens qui se sont enregistrés au registre.
Parce qu'il faut, se déclarer.
C'est pas obligatoire de s'enregistrer au registre des Français et des étrangers. Par contre, de mon point de vue, il y a vraiment aucune raison de ne pas le faire. Surtout que, par exemple, le nombre de personnel au consulat, le nombre de bureaux de vote dépend des Français inscrits au registre des Français et des étrangers. Donc, on peut pas se plaindre de quoi que ce soit si on n'est pas. C'est mon point de vue. Hein. On peut pas se plaindre si on n'est pas inscrit, parce que tout découle de ce nombre d'inscrits. Donc, officiellement, je dirais que c'est à peu près 5500 inscrits en Norvège et 500 inscrits en Islande. Et les chiffres non officiels, c'est le double.
En fait. Ah ouais, d'accord.
À peu près. Mais après, il faut voir qu'il y a donc des gens qui viennent et qui ne veulent rien avoir avec la France, donc ils ne s'inscriront jamais. Il y a aussi des étudiants, ils sont là pour 6 mois, ils ne vont pas tous s'inscrire, etc. Mais c'est,
On parle d'une personne majeure, évidemment, les gens qui sont enregistrés, ou est-ce qu'on enregistre sa famille?
Alors, sur le registre des Français à l'étranger, je suis quasiment sûr que c'est tous, y compris les mineurs. D'accord. Parce qu'après, il y a aussi la liste électorale consulaire qui est pour voter, et c'est plus de 18 ans. Mais on peut être sur l'un et pas sur l'autre.
Et vu qu'on parle élections et représentations, du coup, il y a les européennes qui ont lieu bientôt. Est-ce que c'est un scrutin du coup, qui pourrait se faire en ligne?
J'ai beaucoup de choses à dire sur le vote en ligne parce que je travaille dans l'informatique. Et donc, j'ai le cul entre deux chaises, entre le côté cybersécurité et le côté je suis un élu et je vois bien qu'il y a des gens qui habitent à 2000 km de...
T'es en Norvège, surtout.
Ouais. Mais pas qu'en Norvège, mais littéralement, oui. En Norvège, ils habitent à 2000-2500 km du bureau de vote le plus proche. Et non, pour les européennes, il n'y aura pas de...
Il n'y aura pas de scrutin en ligne?
Non.
D'accord.
Non, non, c'est très rare.
Parce que de toute façon, les présidentielles, ça avait été sur place et les élections des députés, ça avait été en ligne, je crois, pour les Français de l'étranger, non? Ou ça dépend des circos?
Non, 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 ça ne peut pas dépendre des circonscriptions, justement, puisque en fait, il y a ce principe d'égalité où tu ne peux pas donner plus de droits de vote à certaines circonscriptions qu'à d'autres. Donc ça.
Ah oui, 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 voilà. Oui, c'est faux. Oui.
Donc il y a plein de choses à prendre en compte, oui, effectivement.
Okay.
Et il y a même un autre gros débat qui est aussi, est-ce que vraiment ça va... les gens votent plus si on met le vote en ligne? Je veux dire, souvent, j'ai aucun doute que des gens qui habitent à Hammerfest, à Tromsø, dans le Finnmark, etc., certains voteraient effectivement en ligne et ne peuvent pas se déplacer à Oslo. On parle peut-être d'une poignée de gens. Et les gens qui vont voter de toute façon en physique vont voter en ligne, mais le pourcentage de gens, en fait, où si tu mets le vote en ligne, ils vont se dire « Ah, enfin, je vais voter, en fait. »
Le gain n'est pas si intéressant électoralement.
Moi, de mon
point de vue... Par rapport à l'investissement nécessaire pour...
Après, c'est difficile à prouver, mais clairement, j'en suis convaincu.
D'accord. Okay.
Après, un côté, t'allais te mettre là-bas aussi, t'isoler tout seul.
C'est un très bon point, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, dans d'autres pays, tu pars de ton pays, tu ne peux plus voter.
Danemark, c'est ça, je crois.
Non, moi, j'ai voté au Danemark.
Ouais, mais quand t'es danois.
Quand t'es danois et que tu pars à l'étranger, tu peux plus voter, a priori.
Ouais, j'ai souvent entendu.
Et en Angleterre, c'est au bout de 10 ans. Alors, ils vont peut-être revenir dessus. Mais quand t'es anglais et que ça fait 10 ans que t'es parti d'Angleterre, tu peux plus voter.
Mais ça fait du sens parce que t'es plus vraiment citoyen.
C'est un autre débat aussi à avoir. Parce qu'en fait, t'as peut-être des intérêts encore dans le pays.
Oui, non, mais ça dépend quelle est ta position. Mais si ça vraiment t'as refait ta vie et que t'as.
T'es rechargé par Interpol peut-être déjà. Donc...
Oh, encore eux. Non, mais je comprends bien que oui, ça peut être un problème.
Une anecdote, lors de la dernière commission de contrôle de la liste électorale.
Mais là, cette commission, elle fait quoi du coup?
Elle contrôle les gens inscrits sur la liste électorale. Ok, ouais.
Ils vont tout cacher les gens.
Il se trouve, de fil en aiguille, je suis président de cette commission. J'ai dû choisir proposer quatre personnes qui font partie de cette commission. Donc, je suis allé taper dans les gens qui ont des cercles d'amis qui ne sont pas, l'un sur l'autre. Enfin, je veux dire, des gens qui viennent vraiment de différents milieux.
Qui ne se chevauchent pas.
Ouais, exactement.
Qui ne s'influencent pas, oui.
Pour histoire d'avoir des gens qui connaissent, en théorie, le maximum de personnes. Mmh. Ensuite, c'est regarder toute cette liste, voir les gens. Ah, mais tiens, cette personne, je la connais, elle est partie de Norvège depuis 6 ans. Ou alors, ah tiens, j'en connais beaucoup qui sont arrivés, ils sont pas sur cette liste, il va peut-être falloir que je les contacte pour qu'ils s'inscrivent. Mmh. Et donc, plus de la moitié, entre les deux dernières commissions, plus de la moitié des inscrits sont en fait des gens qui ont eu 18 ans, qui ont été inscrits d'office. Tu vois, c'est pas forcément... Il y a à la fois des départs, il y a de Norvège, des gens qui arrivent en Norvège, mais plus de la moitié... C'est des gens qui ont eu 18 ans et qui se sont retrouvés inscrits. Vraie question, les jeunes qui ont grandi en Norvège, qui ont un rattachement à la France, un, deux parents peut-être, qui vont une fois en vacances par an, eux, ils ont le droit de vote pour les présidentielles, etc. Est-ce que c'est plus légitime que les étrangers qui vivent et qui contribuent en France, par exemple ?
Oula, on ouvre une grande parenthèse.
On n'est pas obligé de répondre. Mais je veux.
Non, mais c'est une super question.
J'ouvre le débat.
Après, je pense que s'il y a l'intérêt, si on s'intéresse de près, pourquoi pas. Je trouve que là, il y a un intérêt d'y participer. Mais effectivement, si on n'a aucune.
Ça renvoie au sentiment d'appartenance à la nation, tout ça.
Ouais, c'est
pour partir de cette émission France Culture. Là.
Grand débat.
Du coup, vu que tu es en contact avec les Français, qu'est-ce qui ressort en général de l'expérience d'un Français en Norvège?
Il faut bien voir qu'il y a de tout. En fait, vraiment, vraiment tous les cas de figure. Donc 5-7 000 Français, il y a les gens qui viennent avec des paillettes dans les yeux parce qu'ils ont vu le dernier reportage sur le corps d'Antalasa.
Mais c'est une Moroni qui était
belle. Oui,
c'est
une Moroni qui est venue,
elle avait commencé à faire un peu une dichotomie en mode humoriste. Mais du coup, elle a cité cet exemple-là. Mais vas-y, continue.
Ouais. Non, mais donc il y en a vraiment plein. Et le pire, parfois, c'est les gens qui claquent littéralement tout. C'est-à-dire, ils ne viennent pas juste tester les eaux ici. C'est-à-dire, ils vendent leur maison, ils déménagent toute la famille, et une fois arrivés ici, ils disent « Ah, mais en fait, c'est pas du tout ce que... Enfin, » comme dans Échappée Belle, tu vois. Et donc, t'as les gens qui se plantent comme ça, t'as les gens pour qui c'est exactement ce qu'ils cherchaient. Ils se reconnaissent plus dans la culture norvégienne que dans la culture française, ça se passe très bien, ils restent là très longtemps. Enfin, moi, j'ai rencontré des Français, d'ailleurs, qui sont arrivés avant, dans les 1950-1960, tu vois, à peu près. J'en connais plusieurs, j'ai un très bon ami qui est arrivé avant le pétrole, ouais, clairement. Ça fait 55-60 ans qu'il est là. Je vais parler peut-être de sujets un peu qui fâchent, mais il y a aussi tous les violences conjugales, les Français qui se retrouvent sans abri en Norvège, il y a des Français en prison. Il y a vraiment tous les types de profils, en fait. Vraiment tous les types de profils qui sont représentés en Norvège. Oui, aussi des... peut-être des gens qui viennent ici et qui se plaisent quand même dans les boulots précaires, mais t'as aussi les ingénieurs pétroliers qui touchent des milliers de cents. Il y a vraiment de tout. Tous les types de Français sont représentés ici.
Et du coup, les Norvégiens en général, est-ce que t'as remarqué qu'on avait une certaine image de... Quelle image en général ils ont de nous?
Je pense que cette image a évolué, ou alors c'est peut-être moi qui ai évolué.
Ouais.
Mais clairement, en général, en fait... La génération norvégienne, on va dire, de plus de 40 ans, ont plus de connaissances de la France. Beaucoup ont grandi avec des programmes français à la télé quand ils étaient jeunes. Donc
parce qu'ils ont des parents français, non ?
Non,
même pas.
Non, en fait, en Norvège, on va dire, il y a 30, 40 ans, c'était pas un gros producteur de séries. Ou de films, etc. Donc ils importaient énormément du français, de l'allemand, de l'anglais, bien sûr, énormément. Mais par exemple, Hélène et les garçons passaient ici. La génération, des plus de 40 ans, connaît Hélène et les garçons. Et ça passait en français sous-titré. Il y a aussi des partenariats avec des écoles. Beaucoup de Norvégiens ont fait l'INSA de Toulouse, par exemple, puisqu'il y a une section toulousaine. Il y a trois lycées français aussi. Trois lycées français avec des sections norvégiennes en France. Donc il y a quand même une connaissance de la France. Il y a aussi, bien sûr, tous les gens qui ont bénéficié du boom immobilier. immobilier et qui ont acheté une seconde maison d'un French Riviera, quoi. Donc ils connaissent aussi. Moi, bon, je viens du sud de la France, mais pas de ce côté, pas de ce sud-là. Et les gens comprennent pas quand ils disent ah tu viens du sud, tu viens de Nice. Non, je viens de Toulouse. Ils me font quoi Par contre, chez les jeunes, je retrouve pas du tout ça. D'ailleurs, en seconde langue, donc dans les écoles, le français est en chute libre.
Qui est préféré
à l'allemand.
L'allemand.
Et de mon point de vue, c'est...
Et pas l'espagnol.
L'espagnol aussi, mais en fait, ouais. les parts de français sont prises par...
Par l'allemand, ok.
De mon point de vue, c'est comment dire, mais c'est du marketing. C'est-à-dire que le gouvernement allemand a dit on met les moyens pour faire connaître auprès des professeurs, auprès des écoles, notre langue. Et, voilà. La France le fait aussi. Mais on se fait peut-être bouffer un peu.
Il y a un peu une baisse de régime, non, l'influence culturelle en France. Ouais. L'Institut français, je crois que moi, quand on parlait avec des personnes qui étaient là depuis longtemps, apparemment, il était plus gros, par exemple, que ça avant.
L'Institut français était plus gros. Par contre, ils sont toujours très actifs. Mm-hmm. Enfin, je trouve. J'étais d'ailleurs hier soir à la Cinémathèque où il y avait une diffusion gratuite d'un film... via l'Institut français, c'était vraiment bien, suivi d'un débat. Donc ils sont vraiment très actifs, mais ils étaient plus gros avant.
Brisons les castes. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir entre ma bien-aimée Toulouse, comme toi, et Oslo, grand écart culturel.
Passé par Paris avant.
Je suis passé par Rouen et je suis passé par Paris entre-temps. Bah en fait, c'est simple. Je fais partie des Français qui se sont plus retrouvés dans la culture norvégienne, on va dire. Je préfère 20 degrés que 45 degrés, on va dire. Voilà.
C'est étrange. Ouais. L'été toulousain ne te manque pas.
Non, tu vois, ça ne manque pas. Bizarre. Aussi, l'espace personnel qu'il y a en Norvège, en vrai, ça me correspond plus.
Je veux dire, là, de ne pas être vraiment... de garder ses distances. Ouais.
La densité dans les espaces publics.
Tu parles de ça ou plus des relations interpersonnelles?
En fait, je vais donner un exemple peut-être vraiment concret où le jour où... Parce que maintenant, j'ai la double nationalité. Donc, mais le jour où j'ai compris que j'étais norvégien au sens figuré, donc au sens culturel, c'est quand j'étais envoyé par... Donc, ma boîte norvégienne, j'étais envoyé à Paris dans la filiale. Donc, je suis arrivé comme un norvégien à 8h du matin. Il n'y avait personne, forcément, là-bas, surtout à Paris. Voilà, je me suis installé. Et tous les gens qui sont... Je ne les connaissais pas, hein, c'était pas mon équipe, mais c'était des gens du bureau. Tout le monde est venu me dire me serrer la main, alors que j'avais en plus mes écouteurs, et ça m'a tellement irrité, ça m'a tellement énervé, tous ces gens qui viennent me dire bonjour. J'étais là, mais laissez-moi tranquille, vous voyez bien que je travaille, quoi. Ce côté, voilà, où les pauses de midi, j'ai connu les pauses de midi de 2h. Où on allait au restaurant et puis on prenait bien notre temps. Je peux pas revenir en arrière. Non, maintenant là, 20 minutes c'est plié, mais à 16h je sors du boulot, quoi. Je peux pas revenir en arrière.
Et du coup, vu qu'on parle du boulot, enfin, quelle différence tu fais? Il y en a plein.
Il faut voir que je venais du monde des startups parisiennes. Okay, donc je faisais des horaires de malade. Je suis jamais rentré chez moi à Paris avant 20h. Ma première ma première semaine en Norvège, je suis resté jusqu'à 19h et les lumières s'éteignaient. Si tu veux, j'étais tout seul, mais je culpabilisais de partir à 19h. Et ça a changé, tu vois. Je fais mes 8h, 16h, parce que de toute façon, je suis pas particulièrement payé pour les heures supplémentaires, je fais mes heures. Mon boss, je me souviens aussi très bien, vraie histoire, dans ma deuxième boîte en Norvège, j'étais au travail à 16h un vendredi, mon manager passe et il me regarde et il me fait « Mais tu comptes rester tout le week-end ?» alors que la dernière boîte que j'ai faite à Paris, on avait un stand-up, donc un meeting, tous les vendredis à 17h. Et ça choquait personne. Mais en Norvège, tu leur dis ça, ils sont... c'est possible, quoi. Je veux dire, à 16h, il n'y a plus personne le vendredi.
C'est plutôt en général à 13h, c'est plié. Il y a pas mal de professions.
T'as plus de blagues quand tu sors, quand tu pars tôt en France que quand tu, quand tu pars tôt en Norvège, quoi.
Euh, dans ton site lanorvège.no, t'as fait un sujet sympa sur les Français qui se sont barrés.
Ah, ça plaît ce sujet. Hein.
Ouais. Non, mais parce que j'avais justement lu qu'une des raisons, c'est la culture du travail. Ah. Qui disait le manque de sérieux, le manque de rigueur.
C'est marrant que tu te souviennes de ça.
Non, mais
c'est vrai. En fait, je m'y attendais pas quand j'avais demandé. Donc en fait, c'est deux articles et j'en ai deux en brouillon depuis longtemps. Parce qu'en fait, c'est un sujet dont on parle pas assez, je trouve. Ouais, pourquoi les gens viennent en Norvège, c'est intéressant de parler aussi de pourquoi les gens partent de Norvège. Et il y a plein de raisons différentes. C'est impossible d'en trouver une.
Okay, il n'y a pas de dénominateur commun.
Chacun a ses raisons. Mais effectivement, certains sont partis à cause de la rigueur du travail, parce qu'ils étaient managers en Norvège et ils avaient la culture du petit chef français et ça ne marchait pas ici. Ils ont préféré partir que de continuer à travailler avec des gens qui ne se pliaient pas. Enfin, je ne veux pas caricaturer, mais j'allais dire se plier pas à leurs petits caprices. Mmh. Mais j'ai entendu d'autres témoignages allant dans ce sens où des grandes boîtes norvégiennes où se demandent à un manager français qui a été embauché, mais qui vient avec la culture du travail française.
Ah, ça se passe mal en général.
Et ça se passe mal. Ça parce que c'est. Alors, tous les managers français ne sont pas forcément comme ça. Hein. Mm. Ça peut bien se passer, mais c'est vrai qu'il y a cette culture un peu de flicage, de.
Hiérarchie hyper verticale, et t'as ton titre, c'est ton titre, il faut bien que tu l'assoies et que tout le monde le sache.
Ouais. Le consensus, comme tu peux trouver souvent en Norvège. Ah oui, cette recherche du consensus fatigue beaucoup de gens, beaucoup de Français. Alors qu'en Norvège, ça peut être irritant.
Beaucoup moins de dialogue en France qu'en Scandinavie.
Beaucoup moins de dialogue, mais ça peut être irritant, effectivement, de faire réunion sur réunion pour. Enfin. Accoucher d'une conclusion. Ouais, voilà.
Enfin, moi, du coup, je travaille aussi dans l'informatique, et du coup, dans une petite entreprise d'informatique, et c'est vrai qu'il y a il y a aussi cette notion de coopération qui est forte. Ce qui est bien, du coup, quand tu commences, c'est que t'es assez vite responsabilisé. En tout cas, on confie beaucoup d'autonomie. Mais par contre, j'ai pas encore eu le rôle du manager, mais c'est vrai que quand on me dit manager, maintenant, je vois ça, en tant qu'employé, je vois ça de manière beaucoup plus positive, en fait, parce que je suis beaucoup moins contrôlé et puis on me fait beaucoup plus confiance. Alors par contre, si tu te plantes, là, c'est carrément pour toi, mais après, j'ai jamais eu de gros retours de bâton si je m'étais planté. En général, c'était plutôt bien accepté, l'erreur. Bon, en tout cas, dans mon secteur, je peux me faire mettre ça. Je ne sais pas ce que dire à un médecin ou un infirmier.
Mais... Et c'est aussi important de le dire, en fait, bien sûr, là, on est plutôt d'accord. Mais faut faire attention avec les généralités. Je peux.
Oui, non, bien sûr. Hein.
Vu le nombre de gens que je connais, je peux te sortir des gens pour qui ça se passe très mal en Norvège avec des Norvégiens.
Parce que le clash de culture
Non, parce que c'est des Norvégiens, on va dire, j'ai presque envie de dire, à la française, avec la hiérarchie ou des horaires de 10 à 12 heures par jour, où les syndicats ont été obligés d'intervenir parce que c'était abusé. Je connais aussi une entreprise de nom qui embauche plein de stagiaires français pour 6 mois. Et qui ne les paye pas. Ouais, ça serait illégal en France, mais ici, le niveau des stages, c'est moins encadré. Il n'y a pas vraiment de stages, il y a des sommets et obs. Donc, comme c'est moins encadré, certains en profitent. Et aussi parce que le blâme va sur les deux, de mon point de vue, désolé, mais il y a aussi l'entreprise, mais aussi la personne qui s'est dit.
Qui accepte.
Ouais, voilà. Mmh. Je vais faire 6 mois de stage non rémunéré dans un des pays les plus chers du monde.
C'est un peu se mettre des bâtons dans les roues avant d'arriver.
Oui. Et non, mais c'est vrai que j'avais un peu voyagé sur le site aussi, et c'est vrai qu'il y avait t'avais fait des portraits de personnes qui s'étaient établies en Norvège et pour qui ça se passait bien en général. Et c'est vrai que ces questions, je me demandais qu'est-ce qui se passerait si on les posait à toi aussi. Et il y avait cette fameuse question notamment, c'était une personne qui était un mec qui était charpentier du coup dans le nord de la Norvège. Ouais. Puis une question que j'ai bien aimée, c'était quel est le paysage qui te plaît le plus en Norvège?
Je vais directement aller dans le cliché parce que c'est ce que je pense 80% des gens répondraient. En vrai. Les Lofoten.
Lofoten,
ouais. Enfin, je veux dire, j'y suis
allé. Quelle saison, l'été?
Alors, j'y suis seulement allé en été. Je suis sûr que c'est beau, j'ai vu des images, je suis sûr que c'est beau d'hiver, mais alors d'été, s'il fait un soleil, je veux dire, c'est imbattable. Faut juste être.
C'est magnifique, ouais.
Faut être honnête. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de beaux endroits en Norvège, mais il n'y a rien comme les Lofoten sous le soleil.
Vous y êtes tous allés?
Non.
Moi, j'y suis allé au printemps.
Ouais. Ah, pareil. Ouais, j'étais allé en avril, longtemps déjà. Et c'était le contraste, la montagne, le sable blanc, la neige, l'eau. C'était intrigant et vraiment
Alors,
très, très beau.
Il y a de plus en plus de touristes. A priori, il y en aurait trop. Éventuellement, d'après ce que j'ai compris, j'ai jamais pu vérifier, mais c'est dans ma to-do list. Les îles au-dessus, Senja, par exemple, c'est aussi beau, mais c'est encore sauvage. Donc c'est...
Ben non, mais fallait pas en parler au podcast.
Il y a tellement d'auditeurs que ça risque.
Ça sera coupé au montage. Dans le prochain épisode de Brisons la glace, nous continuerons notre discussion avec Thomas Bassetto, qui nous parlera de ses frustrations avec certains de nos compatriotes.
Les spéculoos. Il y a toujours...
Quelqu'un qui veut des spéculoos ?
Ouais, une à deux fois par an, et c'est toujours la même réponse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 1000 magasins qui les vendent, tu vois, au bout d'un moment, tu cherches spéculoos, tu vas l'avoir ta réponse. T'es pas obligé de la demander, voilà, quoi.
Et, pour la Saint-Valentin, nous parlerons de la culture norvégienne de la rencontre et de la séduction.
Il y a un mec qui a essayé de me convaincre de lui faire une tarte tatin.
Ah, c'était mal parti cette phrase. Nous espérons que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à partager le podcast autour de vous. Cela nous aide énormément dans le développement de l'émission. En attendant, retrouvez tous nos podcasts sur SoundCloud et Spotify, ainsi que nos dernières actualités sur notre page Instagram à Brisons la glace -PFN. Merci de votre soutien. Ciao.